À l'écoute de RFI, 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, eh bien la capture de 2 soldats chinois par l'armée ukrainienne.
Oui, c'est ce qu'annonce Volodymyr Zelensky. La capture de 2 ressortissants chinois qui combattaient au sein de l'armée russe dans l'est du pays, selon le président ukrainien, qui demande aux occidentaux de réagir, à suivre la correspondance d'Emmanuel Chaz. Il y aura des discussions sur le nucléaire iranien avec des Iraniens ce samedi. Le président américain Donald Trump l'a annoncé hier. Alors, on ne sait pas si ces discussions sont directes ou indirectes entre Iraniens et Américains, mais elles devraient bien avoir lieu dans le sultanat d'Oman. On fera le point avec Nicolas Falaise, ce sera le dossier du 20h.
Dans l'actualité également de ce mardi, les avocats de Nicolas Sarkozy qui plaident la relaxe.
Oui, dans le procès sur le financement libyen présumé de la campagne de 2007 de l'ancien président, Nicolas Sarkozy a parlé lui aussi pour dire qu'il ne voulait pas répondre à ce qu'il appelle, je cite, un réquisitoire politique et violent. Le compte-rendu d'audience, ce sera avec Laura Martel.
Et puis, juste après ce grand journal du soir, eh bien le regard de nos collègues suisses du journal Le Temps sur une autre affaire politique en France, la condamnation de Marine Le Pen. Ils retiennent une verticalité très symbolique, selon eux, du système français. Nous les appellerons. C'est donc une première. Volodymyr Zelensky annonce la capture de 2 soldats chinois dans l'est du pays.
Des soldats qui combattaient, selon le président ukrainien, au sein de l'armée russe en Ukraine. Le chargé d'affaires chinois à Kiev a été convoqué pour explication. Et Volodymyr Zelensky a exhorté les Occidentaux à réagir face à l'implication de Pékin. Si cette présence est avérée, la Chine serait le 2e pays à participer directement à l'attaque russe en envoyant des soldats. Après l'arrivée des troupes nord-coréennes, on s'en souvient, à l'automne dernier. Correspondance Emmanuel Chaz.
Dans cet extrait de la vidéo postée par Volodymyr Zelensky, un soldat chinois que le président ukrainien dit avoir été arrêté dans la région de Donetsk où il combattait, explique au soldat ukrainien le déroulement des opérations auxquelles il a participé aux côtés des troupes russes. Selon le président ukrainien, des documents d'identité et des cartes bancaires ont été retrouvés sur les 2 soldats arrêtés et les renseignements ukrainiens auraient établi que la présence chinoise va bien au-delà de ces 2 soldats. Volodymyr Zelensky dénonce cette participation chinoise à la guerre russe contre l'Ukraine, soit directe avec la présence au sol de troupes chinoises ou indirecte via des financements et de l'équipement militaire fourni par Pékin à Moscou, comme un signal clair que la Russie n'a aucune intention de cesser la guerre. Le président ukrainien appelle les États-Unis et l'Europe ainsi que tous ceux qui souhaitent la paix à réagir à cette révélation qui intervient alors que l'Ukraine tente de convaincre ses alliés d'investir davantage dans sa défense, notamment pour sécuriser le ciel ukrainien et renforcer sa résistance à l'armée russe sur la ligne de front. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
La Chine toujours qui n'échappera pas à des droits de douane américains encore plus importants que ceux prévus initialement et ce à cause des mesures de rétorsion de Pékin.
Oui, la Maison-Blanche annonce ce soir que les nouveaux droits de douane contre la Chine vont bien grimper à 104% dès demain, ce mardi. Le président français Emmanuel Macron disait que l'objectif, c'est que Donald Trump revienne sur sa décision concernant les droits de douane imposés au reste du monde, notamment à l'Union européenne. On le voit, cela semble mal parti, d'autant que le président américain a jugé la nuit dernière que la proposition de l'Union européenne n'était pas suffisante. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait proposé une exemption des droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels. C'est donc demain qu'entrent en vigueur les nouvelles taxes américaines sur les importations européennes et chinoises. Mais du côté des bourses, cela va mieux après la dégringolade d'hier. Les bourses européennes terminent en forte hausse. Paris plus 2,50%, Francfort plus 2,48%, Londres plus 2,71%. Wall Street aussi est en nette hausse.
Alors, on a évoqué les déclarations hier soir de Donald Trump, le président américain, qui a également parlé de l'Iran. Il a affirmé que Washington avait des discussions directes avec Téhéran.
Qui pourtant, de son côté, rejette tout dialogue direct avec les Américains. Alors, direct ou indirect, on ne sait pas. Mais ces discussions auront lieu samedi prochain sur le sol du sultanat d'Oman, un état arabe du Golfe connu pour faciliter ce type de contact hautement sensible. C'est pour parler Washington-Téhéran porte évidemment sur le programme nucléaire de l'Iran. On en parle avec vous, Nicolas Falaise, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Falaise du service international de RFI. Alors avec son programme nucléaire, l'Iran se rapproche sans cesse de la maîtrise de la bombe atomique et c'est un dossier qui alimente évidemment les tensions au Moyen-Orient.
Oui, avec ses menaces régulières de bombardements israéliens sur les installations nucléaires de Téhéran, menaces américaines également de la part d'un Donald Trump qui, lors de son premier mandat, avait quitté l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump qui, aussitôt revenu à la Maison-Blanche cette année, a relancé sa politique de pression maximale sur Téhéran à coups de sanctions. Le chercheur Clément Terme est un spécialiste de l'Iran.
Les deux parties veulent éviter la guerre et l'escalade militaire au Moyen-Orient. Donc là, il y a un terrain d'entente possible. En tout cas, c'est sur cet objectif-là que les deux parties ont accepté de se rencontrer, plutôt la diplomatie que la guerre.
Plutôt la diplomatie que la guerre. Mais ce soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare que l'option militaire est inévitable si les discussions traînent en longueur.
Elles s'annoncent extrêmement complexes, ces négociations, ne serait-ce que pour définir ce qui doit être discuté. Seulement le programme nucléaire de l'Iran ou aussi ses programmes de missiles et de drones et son influence dans la région. Washington, mais aussi les Européens, voudraient cette négociation globale que Téhéran rejette pour le moment.
Alors l'Iran est sous pression ?
Oui, sous pression du calendrier d'abord. À l'automne prochain, Téhéran risque le retour de sanctions douloureuses. Les sanctions internationales qui avaient été levées il y a 10 ans dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Pour la République islamique, ce serait un coup dur car elle est déjà asphyxiée économiquement, comme l'explique Clément Terme.
Il y a eu cet hiver, par exemple, des pénuries d'énergie, de gaz, de chauffage, alors que l'Iran est à la fois un géant pétrolier et gazier. Il y a aussi des actes de désobéissance civique, puisque le régime n'arrive plus à contrôler le voilement forcé des femmes iraniennes. Donc il y a toute une série d'indices qui montrent que le régime est fragilisé et que la surenchère idéologique est risquée pour la survie du système.
Un système fragilisé aussi au Moyen-Orient, avec la perte de son allié syrien, le régime de Bachar el-Assad, et par l'affaiblissement du Hezbollah libanais.
On l'a bien compris, enjeu idéologique et enjeu économique pour la République islamique, donc qui doit choisir de reculer ou non sur son programme nucléaire.
L'Iran accumule de l'uranium enrichi, un matériau de plus en plus concentré et qui n'a donc plus rien à voir avec les caractéristiques d'un programme nucléaire civil. La crise du nucléaire iranien, c'est une crise de prolifération, le scénario d'un pays qui tend le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, et devenant une puissance dotée de la bombe atomique. Jusqu'à présent, l'Iran affirme que ce n'est pas son but.
Merci Nicolas Falaise.
Il est 20h07 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Vous êtes à l'écoute du grand journal du soir avec Christophe Paget. Deuxième jour de la visite en Égypte d'Emmanuel Macron. À la une également ce soir, Christophe, le président français qui s'est rendu très près de la bande de Gaza, une cinquantaine de kilomètres à Al-Arish, l'avant-poste égyptien du soutien humanitaire à Gaza.
Une aide humanitaire bloquée depuis bientôt un mois par les Israéliens. Emmanuel Macron s'est rendu au chevet de patients palestiniens accueillis dans l'hôpital de la ville et a visité le centre de stockage de l'aide humanitaire du Croissant-Rouge. La reprise de l'aide humanitaire est la priorité des priorités face à une situation intenable, a insisté Emmanuel Macron.
Je m'exprime devant vous, devant des lots que vous voyez provenir de l'aide française, qui ont été refusés, parce que tout est refusé depuis le 2 mars. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Mais parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Et donc c'est pour nous la priorité. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire, c'est-à-dire la reprise de la livraison de nourriture, d'eau, de générateurs et évidemment de médicaments, et la reprise des sorties des personnes qui sont les plus fragiles pour qu'elles soient prises en charge aussi dans les hôpitaux, en particulier celui qu'on a vu ce matin à Al-Arish, car les capacités médicales ont été très largement détruites aujourd'hui à Gaza.
Emmanuel Macron au micro de Valérie Gass. Emmanuel Macron qui a aussi condamné avec force les attaques contre les humanitaires et les secouristes à Gaza. Le 23 mars, 15 personnes ont été tuées par des tirs israéliens sur des ambulances à Rafah, le point de passage entre l'Égypte et Gaza. En Israël, la Cour suprême a commencé à examiner les recours contre le limogeage du chef de la sécurité intérieure, le Shin Bet, par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une audience sous tension. D'ailleurs, le public a été expulsé de la salle après des altercations entre partisans et opposants du gouvernement. Des opposants qui voient dans le limogeage de Ronen Bar le signe d'une dérive autocratique du pouvoir.
En Turquie, le président qui porte plainte pour insulte contre le chef du principal parti d'opposition.
Ce dimanche, Özgür Özel a estimé que Recep Tayyip Erdogan était à la tête d'une junte. C'était lors d'un congrès exceptionnel de son parti, le Parti Républicain du Peuple. Parti auquel appartient le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui depuis la fin du mois de mars est en prison. Anand Lauer.
Une plainte pour insulte au chef de l'État, une charge passible en Turquie d'un à quatre ans de prison, et une demande d'indemnisation de 500 000 livres, soit environ 12 000 euros pour préjudice moral. Recep Tayyip Erdogan n'a pas attendu longtemps pour attaquer en justice le chef du principal parti d'opposition. Dimanche, alors qu'il venait d'être reconduit à la tête du CHP, Özgür Özel avait comparé l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu à une tentative de coup d'État et accusé le président turc d'être à la tête d'une junte. La Turquie est gouvernée par une junte qui a peur des élections, peur de ses adversaires et peur de la nation, avait lancé Özgür Özel. Dans un pays à l'histoire jalonnée par les putschs et les tentatives de putsch, et chez un dirigeant comme Recep Tayyip Erdogan qui se réclame constamment de la volonté populaire, une telle accusation touche une corde sensible. Les ministres et les proches du chef de l'État s'étaient d'ailleurs empressés dès dimanche de répondre durement au chef du CHP. Ekrem İmamoğlu emprisonné, Özgür Özel semble être la nouvelle cible du président Erdogan, même si le chef du CHP est pour l'instant protégé par son immunité parlementaire. Anadolu Ankara, RFI.
Et d'Ankara à Paris, direction à présent la capitale française, car ce mardi, c'était la dernière journée d'audience au procès du financement libyen présumé de sa campagne pour la présidentielle de 2007 et la parole était à la défense de Nicolas Sarkozy.
Oui, l'ex-chef d'État est accusé d'être, je cite, le véritable commanditaire du pacte de corruption avec Tripoli. Le parquet a requis 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Laurent Martel, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, les avocats ont plaidé la relaxe en s'en prenant à l'argumentaire du parquet accusé de vouloir masquer le vide du dossier.
C'est un ex-président visiblement tendu qui s'installe devant ses conseils à quelques mètres de sa femme, deux de ses fils et son frère venu en soutien. Pendant 5h30, ses avocats se succèdent à la barre. Maître Darrois lance la charge contre le parquet. S'il a été si violent dans ses réquisitions, dit-il au juge, c'est qu'il ne s'adressait pas à vous mais à l'opinion pour salir Nicolas Sarkozy, entretenir l'image d'un homme malhonnête et cupide, d'un voyou. En l'absence de preuves, l'accusation tord les éléments du dossier pour les faire entrer de force dans sa construction théorique, dénonce-t-il. Des déformations flagrantes dans le cas des montants allégués, renchérit Maître Arnoux. L'argent de la corruption ne disparaît pas comme ça. Or, aucun argent libyen n'a été retrouvé dans la campagne, répète l'avocat, qui estime que les quelques virements de fonds retracés en provenance de Tripoli n'ont profité qu'à Ziad Takieddine. Maître Ingrin, enfin, s'attelle lui à démontrer que le pacte de corruption n'a jamais existé et que l'idée folle d'un financement libyen de la campagne ne tient pas. En premier lieu parce que Nicolas Sarkozy n'avait tout simplement aucun besoin de chercher un autre financement que celui déjà assuré par son parti. Il vous faudra du courage, lance-t-il finalement au tribunal, pour aller à l'encontre de la doxa et reconnaître que 13 ans de procédure aboutissent à une impasse qui ne vous permet pas de déclarer Nicolas Sarkozy coupable.
Merci Laura Martel. Justice toujours, un homme de 76 ans a été interpellé ce mardi à la Garenne-Colombes en banlieue parisienne. Il est accusé d'avoir menacé de mort la présidente du tribunal qui a condamné la chef de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, pour détournement de fonds. Depuis le jugement, la présidente du tribunal, comme les autres magistrats, est la cible de menaces très violentes et elle est sous protection policière.
Toujours en France, ce sera demain mercredi, la commission d'enquête de l'Assemblée sur les violences sexuelles dans la culture qui va livrer 90 recommandations pour freiner, je cite, « la machine à broyer les talents ».
Les violences morales, sexistes et sexuelles dans le monde de la culture sont systémiques, endémiques et persistantes. C'est ce qu'écrit dans ce rapport la présidente de la commission, l'écologiste Sandrine Rousseau. La commission a auditionné pendant près de 6 mois 350 personnalités du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Elle doit entre autres proposer d'interdire la sexualisation des mineurs à l'écran et de réglementer les castings ainsi que le travail des enfants acteurs.
Allez, c'était une promesse faite il y a un an et demi à la COP sur le climat à Dubaï. On va se pencher dessus à présent. Une transition en dehors des énergies fossiles.
Oui, le charbon, le gaz, le pétrole, les principaux responsables du réchauffement climatique. Seulement voilà, on en est encore loin puisque le secteur de l'énergie n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre que l'an dernier. Simon Roset.
C'est une hausse historique, selon le relevé du groupe de réflexion Ember. Jamais autant de nouveaux moyens de production d'électricité renouvelable n'ont été mis en ligne dans le monde qu'en 2024. Et pourtant, jamais le secteur n'a émis autant de gaz à effet de serre, car dans le même temps, le charbon et le gaz ont eux aussi progressé. La raison, une demande d'électricité toujours plus importante. Les températures records de 2024 ont en effet induit un recours plus massif à la climatisation dans le monde, notamment dans des régions frappées par de fortes vagues de chaleur et encore très dépendante des énergies fossiles à l'image de l'Inde. Cette demande croissante en électrons n'a pas pu être assurée par l'installation des nouveaux panneaux solaires et nouvelles éoliennes. Les centrales à combustible fossile ont donc dû combler la différence. Tout l'enjeu des mois et années à venir, c'est de voir les courbes se croiser, voire celle de l'installation de nouveaux moyens renouvelables dépasser celle de la hausse de la demande en électricité. Ce n'est qu'à ce moment que le charbon et le gaz commenceront à être moins utilisés. Ce n'est qu'une question de temps, notent les auteurs de ce travail. La transition énergétique se fera, reste à savoir à quelle vitesse.
Simon Roset. Enfin en Haïti, Médecins Sans Frontières annonce qu'il se désengage de 2 centres médicaux après l'attaque d'un de ses convois, désengagement pour 3 mois minimum. Ce sont les centres d'urgence de Turgeau et l'hôpital traumatologique de Carrefour qui ont été attaqués le 15 mars. Haïti est la proie de gangs armés qui tuent, violent et pillent la population. Ils contrôlent environ 85% de la capitale, Port-au-Prince, et ils ont dernièrement multiplié les attaques sur les quartiers qui leur échappaient encore.
Eh bien, merci Christophe Paget. C'était le grand journal du soir sur Radio France Internationale.
Romain Ozoui.
Et il est 20h15 ici à Paris, 2h de moins évidemment en temps universel. On va jeter un coup d'œil au programme qui vous attend dans les prochaines minutes. On va évoquer les échos à l'affaire de la condamnation de Marine Le Pen. Échos depuis la Suisse, signé de nos collègues du journal Le Temps, qui retiennent, eh bien vous verrez, une verticalité très française. On les appellera à suivre également les relations entre la France et l'Algérie qui restent très tendues malgré les récents signes d'apaisement avec la visite, c'était dimanche à Alger, du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Reportage dans la banlieue parisienne. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Il aurait fallu plutôt que ce petit jingle, la musique de la Ligue des Champions.
Ah oui, c'est vrai.
Elle revient ce soir, début des quarts de finale. Et le Real Madrid tenant du titre qui se déplace en Angleterre sur la pelouse d'Arsenal.
Ouais, les merengues romains qui arrivent en Angleterre après une défaite surprise ce week-end en Liga face à Valence, 2-1. Mais il faudra évidemment tourner la page pour se concentrer sur la compétition où ils sont le plus titrés. On rappelle 15 Ligues des Champions pour le Real. De leur côté, les Gunners ont eux aussi été tenus en échec en championnat sur la pelouse d'Everton. Un match nul et se présente avec un effectif amoindri, surtout offensivement. Préservé samedi, le gardien belge du Real, Thibaut Courtois, reprendra sa place et il se méfie bien évidemment des Gunners.
Nous avons beaucoup de respect pour Arsenal. Ils jouent bien, c'est une équipe équilibrée entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Ils défendent bien, ils pressent haut, ils savent jouer en bloc bas pour ensuite se projeter vers l'avant. Et ils ont des joueurs adroits devant le but, notamment sur coup de pieds arrêtés. Ils sont durs à bouger. J'imagine que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne remportent un nouveau trophée, mais j'espère que nous les éliminerons en Ligue des Champions.
We can pass in the Champions League, but they are doing great.
Et Arsenal Real Madrid, coup d'envoi 19h temps universel.
Et ce sera le premier quart de finale de Ligue des Champions. L'autre rencontre du soir opposera le Bayern Munich à l'Inter Milan.
Ouais, c'est le remake de la finale en 2010. Bon, c'était un petit peu longtemps. Un roman remporté à l'époque par les Interistes, malgré une infirmerie là aussi bien remplie. Vincent Kompany, le coach munichois, pourra compter sur Thomas Müller, le joueur le plus capé de l'histoire du club, a annoncé qu'il quitterait le Bayern à la fin de la saison, mais espère quand même disputer la finale de la compétition. Ce sera à domicile et il peut encore pousser loin son club, selon son coéquipier autrichien Konrad Leimer.
Thomas Müller peut certainement toujours créer de la magie pendant le match. C'est vraiment amusant d'être son coéquipier dans le vestiaire et sur le terrain. Pendant 2 ans, j'ai eu la chance d'être son voisin de vestiaire. Il est tout le temps 100% authentique dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ce qui le rend si gentil. Ça le rend spécial en tant que personne, peu importe où il est. Il apporte tellement d'énergie, tellement de joie, tellement de plaisir. Il peut rendre tout le monde meilleur autour de lui. Il cherche toujours à s'améliorer.
Et Bayern Inter également, 19h temps universel.
Allez, le foot en France à présent, et Montpellier, dernier du classement de Ligue 1, qui officialise l'arrivée d'un nouvel entraîneur.
Et c'est Zoumana Camara, ancien grand défenseur passé notamment par le Paris Saint-Germain, l'OM et l'Inter Milan, qui a été nommé ce mardi entraîneur de Montpellier. C'est son premier poste de numéro 1 sur le banc d'une équipe professionnelle, 46 ans. Zoumana Camara qui a fait quand même partie du staff de plusieurs entraîneurs du PSG entre 2015 et 2021. Zoumana Camara qui prend la suite de Jean-Louis Gasset dans une équipe quasiment condamné à la relégation en Ligue 2.
Le foot féminin, l'équipe de France qui se déplace en Norvège, c'est le choc du groupe 2 en Ligue des Nations.
Oui, 3 victoires en 3 matchs pour les Bleus de Marie-Antoinette Katoto, succès contre la Suisse 2-0, l'Islande 3-2 et la Norvège lors de la première journée 1-0. Seule la première place est qualificative pour les demi-finales, on le rappelle. Pour l'instant, l'avance est de 5 points à 3 matchs du terme. Match à suivre en ce moment du côté d'Oslo, toujours 0-0, 55e minute de jeu.
L'actu sportive hors foot, c'est le tennis. Le premier tour du Masters 1000 de Monte Carlo qui continue et déjà la tête de série numéro 1 éliminée.
Ouais, le numéro 2 mondial Alexander Zverev éliminé ce mardi dès son entrée en lice, battu en 3-7 par l'Italien Matteo Berrettini, 2-6, 6-3, 7-5. À noter la qualification du numéro 1 français Arthur Fils pour le deuxième tour en éliminant le néerlandais Talon Griekspoor en 3-7. Victoire 6-7, 6-4, 6-2. Puis un mot du tenant du titre, le grec Stefanos Tsitsipas, qui lui s'est imposé aussi difficilement en 3 manches face à l'Australien Thompson, 4-6, 6-4, 6-2.
Voilà qui est complet. Merci beaucoup Sofiane Amazian pour ce Journal des Sports. Il est 20h20 à Genève et à Paris. En France, la tension entre politique et justice, toujours très forte dans le sillage de la condamnation de Marine Le Pen. Ce mardi, un homme a été placé en garde à vue pour menace de mort à l'encontre de la présidente du tribunal qui a délivré la peine d'inéligibilité de 5 ans à l'encontre de la chef de file de l'extrême droite. Bonsoir Paul Ackermann.
Bonsoir.
Correspondant à Paris du quotidien Le Temps, dans votre chronique, vous jetez votre regard suisse sur l'affaire de la condamnation de Marine Le Pen. Première question, est-ce que vous êtes étonné par l'ampleur que cette affaire prend en France ?
Alors, comme je connais maintenant bien la France, je suis pas étonné, mais c'est vrai que quand on met ça en comparaison du système suisse, c'est assez étonnant parce qu'en fait, dans un système suisse qui est assez horizontal, où on cherche le consensus parlementaire et où tout le monde est un peu remplaçable, on se demande pourquoi l'empêchement d'une seule politicienne devait être vu comme un empêchement de la démocratie. On se dit que on devrait bien pouvoir lui trouver un remplaçant dans son parti. Et en fait, ce que j'explique dans ma chronique, c'est que c'est en partie dû aux spécificités du système français qui est très vertical dans ce système présidentiel, très centralisé, et que l'organisation des partis, voire même de tout l'agenda politique, est calquée sur ce système vertical et présidentiel, qui fait que ce qu'il y a au sommet de la pyramide, eh ben, quand on l'enlève, on a l'impression que tout va s'écrouler.
Donc c'est d'abord en raison de cette verticalité politique, plutôt que un sentiment que Marine Le Pen s'accrocherait à une très hypothétique candidature à l'élection présidentielle au lieu de passer la main, bah, par exemple, à Jordan Bardella ?
Ben, c'est justement lié à la spécificité de cette élection présidentielle, et puis aussi c'est renforcé par ce parti qui est encore plus vertical que les autres, qui est même quasi héréditaire, hein. On se passe le parti de père en fille, et donc il est tenu d'une main de fer par Marine Le Pen depuis longtemps, donc on voit bien quand on enlève elle, il ne reste plus grand chose derrière. D'ailleurs, c'est un des soucis avec son héritier désigné Jordan Bardella, dont on se demande bien ce qu'il deviendra sans se bénéficier de l'ombre de la patronne.
Le symbole finalement de cette verticalité politique, c'est l'élection présidentielle en France. Je ne sais pas comment vous, de Suisse, vous l'observez. Évidemment, il y a un pouvoir démesuré de cette élection et tout tourne autour de cela.
Bah oui, et d'ailleurs, on a bien vu ce week-end avec ces grands rassemblements organisés, non seulement par le Rassemblement National, mais aussi par la gauche et par le camp d'Emmanuel Macron. Le fait de retirer la candidate favorite, ça pourrait réorganiser tout le paysage politique. C'est-à-dire que tout le monde se cherche maintenant, se repositionne, parce que si c'est pas elle en face, ça change les stratégies. Donc on voit bien comment, en gros, tout le paysage, plus de 2 ans avant l'élection, se voit bouleversé par le simple fait de retirer une candidate. Ça montre bien à quel point tout ça est central et que tout l'agenda repose sur cette élection et les personnes qui finiraient en finale de cette élection.
Cette élection présidentielle est évidemment en France. Et dans cette chronique, cette semaine dans Le Temps, Paul Ackermann, vous écrivez que cette logique pyramidale, ben finalement, on la retrouve dans toute la société française, c'est-à-dire...
C'est vrai que le système est lié à une culture et la culture est liée à un système. C'est difficile de faire la part des choses entre la poule et l'œuf, mais tout le système français aujourd'hui est très vertical. On le voit dans le système scolaire qui débouche sur des grandes écoles et avec des concours où chacun est à son rang. Je prends l'exemple de la botte de l'ENA qui a disparu, mais la fascination pour ces 15 meilleurs diplômés de l'ENA qui est comme un peu le sommet de cette pyramide éducationnelle. Et puis, comme par hasard, eh ben, c'est cette institution-là qui avait été visée après la crise des Gilets jaunes. En gros, elle n'a fait que changer de nom et le système a probablement pas beaucoup changé. Mais on voit bien que cet élitisme absolu du système français pose problème. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout du compte, même pour le parti qui est censé défendre la France d'en bas, on subit cette verticalité.
C'est un élitisme ou c'est un système de compétition ? Et est-ce qu'on retrouve ça en Suisse ou pas du tout ?
Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire que voilà, l'élitisme est basé sur le fait de hiérarchiser les gens. Et là, on hiérarchise aussi les positions de pouvoir, donc de tout voir à travers un classement. Et non, la Suisse est un pays très, très horizontal et très fédéral. Pas grand monde est capable de dire qui est le président de la Confédération cette année. Ça changera l'année prochaine. Les systèmes d'université sont beaucoup moins hiérarchisés. Non, c'est une vision du monde très différente. Et c'est pour ça que je trouvais ça particulièrement intéressant d'expliquer expliquer ça à un électorat suisse qui, bien sûr, suit de près ce qui se passe pour les présidents français, mais qui, à travers cette chronique, verront peut-être à quel point c'est éloigné du système suisse.
Ce que le choc Marine Le Pen dit du système pyramidal français, votre chronique, Paul Ackermann, à découvrir demain, mercredi, dans le quotidien suisse Le Temps, et évidemment sur votre site internet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, après la France vue de Suisse, eh bien la France et l'Algérie à présent, les relations sont tendues. On peut parler de crise depuis plusieurs mois, même si l'heure semble être aux tentatives d'apaisement. En témoigne le déplacement dimanche à Alger du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Comment la crise, qui a été tout de même marquée par une escalade des menaces, il faut le rappeler, comment cette crise est vécue par tous ceux qui ont des liens avec les deux côtés de la Méditerranée, qu'il s'agisse d'Algériens de France, de binationaux ou encore d'enfants d'Algériens? Eh bien écoutez plutôt ce reportage à Sartrouville, commune de la banlieue ouest de Paris. Reportage signé Marie-Cazelebet.
Donc sur tous les textes, sans aucune exception, il y a des coupes.
Tous les vendredis soirs, Abdelweb Sefsaf, le directeur du théâtre de Sartrouville, anime un atelier pour comédiens amateurs. Sur 14 participants, les trois quarts ont des liens avec l'Algérie.
Malika, mes parents sont originaires d'Algérie.
Samira, mes parents sont venus quand ils étaient jeunes.
Carole, j'ai un grand-père qui est venu d'Algérie dans les années 40.
Mohamed, je suis venu en France à 8 ans, en 1968.
Ils ont entre 42 et 65 ans. Ces quatre ont accepté de nous raconter comment ils avaient traversé cette énième crise entre Paris et Alger.
Comme une violence inouïe, parce que ça remet en cause la question de la légitimité.
Moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Et je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand tu as eu une espèce de négation par rapport aux exactions de la France en Algérie.
Pour nos quatre comédiens amateurs, c'est l'un des plus gros nœuds. La France ne parvient toujours pas à regarder la réalité de son passé en Algérie.
Je crois que la difficulté, elle est là. On n'arrive pas à s'entendre sur l'histoire. Être algérien, pour les gens, ça veut aussi dire être musulman. On a l'impression d'avoir un double handicap, quoi.
Oui, c'est la double peine, en fait. Tous les musulmans sont attaqués aujourd'hui. Mais l'Algérien, c'est la cible. Certains politiciens se sont dit, voilà, on va toucher l'Algérie. Parce que tous, ils ont des comptes à régler avec les Algériens.
Alors, j'ai l'impression que être français intégré ou assimilé, c'est vraiment renoncer à ses origines. Et pour moi, ça, c'est une hérésie.
Alors rien d'étonnant si le projet théâtral que leur a proposé Abdelweb Sefsaf les inspire. Il s'intitule « Français du futur » et ils l'écrivent ensemble.
Derrière ton destin foulé de rêves victorieux.
Si j'ai eu besoin moi de faire ce travail, c'est parce que quand j'étais enfant, j'étais assez troublé par le fait qu'on me qualifiait non pas de Français de première génération, mais plutôt d'immigré de seconde génération. Comme si mes enfants allaient être des immigrés de troisième génération et ainsi de suite, jusqu'à ne jamais devenir français.
Mais c'est aussi son histoire qui lui fait dire que Paris et Alger n'ont pas d'autre choix que de se réconcilier.
La France a une histoire de 200 ans avec un pays arabe qui s'appelle l'Algérie, et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. C'est pas possible. C'est d'abord nier l'histoire, c'est, je dirais, insulter la mémoire des disparus, mais c'est pire encore, insulter la mémoire des vivants. On tente de réduire l'écartèlement auquel on nous assigne, mais à un moment donné, ça devient intenable.
Pour ne pas se sentir écartelé, la petite troupe a décidé de se servir de son vécu, de ses richesses, pour dresser ensemble le portrait de ce qu'elle entend incarner, le français du futur.
Voilà, c'était Marie-Cazelebet sur RFI. Et on jette un coup d'œil à ce qui vous attend, un coup d'œil à la pendule. Déjà, il est 20h28 ici à Paris. Ça veut dire dans une minute, ce sera la première édition de la Freak Soir de ce mardi, présentée par Arthur Ponchelet. Et puis 30 minutes plus tard, le journal et Mardi Politique. Ce soir à 19h, temps universel, avec Manon Aubry, qui sera l'invité de Rosine Fèvre et Frédéric Rivière. Manon Aubry, présidente du groupe La Gauche au Parlement européen. Bougez pas, notre session d'info, évidemment, elle se poursuit sur RFI pendant encore 1h30.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, le gouvernement considère la grève dans les écoles du primaire et du secondaire comme illégale. La ministre de la fonction publique a menacé de licencier les enseignants grévistes. Que vous inspire ce bras de fer? Le droit de grève est-il menacé?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça? Posez vos questions, Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 19h41 sur RFI.